France Info.
Bonsoir à tous. La France attend son bulletin de notes vers 22h. Sur quoi se basent les évaluations des agences financières Fitch et Moody's? Est-ce si grave si la note est mauvaise? Avec quelles conséquences politiques? On sera en ligne dans un instant avec l'économiste Philippe Dessertine. Philippe Dessertine qui nous éclairera aussi sur notre deuxième sujet, la crise du logement et de la construction. Nexity, premier promoteur immobilier français, supprime 500 postes. Maintenant, il faut agir, dit au gouvernement sa patronne Véronique Bédague qui était ce matin sur France Info. Et puis la GPA s'invite dans la campagne des européennes. Droite et gauche s'écharpent. On redéroulera la polémique de la semaine autour des jumeaux du créateur de mode Jacquemus, avec ce qui ressemble aussi à une fake news au Parlement européen. Contrairement à ce que François-Xavier Bellamy et Jordan Bardella crient et fort, la GPA n'a pas été reconnue cette semaine comme traite des êtres humains ni interdite en Europe. Autour de la table pour en parler, notre experte du vendredi sur les réseaux sociaux et les fake news, justement, Véronique Reissoult, présidente de Backbone Consulting. Autour de la table également, Adrien Brachet, service politique de Marianne.
Bonsoir.
Et Alexandra Saviana, service société à l'Express. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous. D'abord donc ce verdict printanier des agences d'évaluation Fitch et Moody's attendu ce soir. Je salue Philippe Dessertine.
Bonsoir.
Bonsoir à vous. Merci d'être en direct dans Les Informés. Vous avez été membre du Haut Conseil des Finances Publiques et vous dirigez l'Institut de Haute Finance aujourd'hui. Alors évidemment, l'aggravation des finances publiques en France laisse imaginer au mieux, on va dire, des commentaires pas très flatteurs à défaut d'une dégradation de la note. Pour poser le débat, je vous propose d'écouter, parmi les optimistes, l'invité écho de France Info tout à l'heure, Xavier Timbaud, directeur de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques.
Alors, chaque agence a son barème, mais disons que la note de la France, elle est dans ce qu'on appelle le high grade. Ça veut dire très bonne qualité. Il y a un cran au-dessus, qui est quand même le prime grade. Et ça, c'est le triple A, et la France l'a perdu depuis quelques temps maintenant. Donc, on est dans la zone très bonne note, mais il y a mieux. Donc, si vous voulez, c'est un 17,5.
Voilà, ce qui est pas plus mal, qui est plutôt pas mal, on va dire. Alors plus pessimiste sur la situation des finances aujourd'hui en France. Élie Cohen, directeur de recherche au CNRS.
On a connu une période pendant 10 ans où les taux n'arrêtaient pas de baisser, où en gros on pouvait emprunter pour rien du tout. Et puis depuis quelques mois, à cause de la reprise de l'inflation, de l'instabilité mondiale, les taux se sont remis à monter et le coût de la dette commence à peser. Et dans les projections qu'on fait sur le coût de la dette à 2027, par exemple pour la France, eh bien le poste de coût de la dette deviendra le premier poste budgétaire.
Docteur Dessertine, aidez-nous à nous y retrouver. Est-ce que c'est grave?
Alors, je crois qu'effectivement, on a au fond les... Donc, on dit aussi une opinion hein, pour une agence de notation. Oui. On a deux opinions en disant finalement c'est quand même un très bon élève la France, et je crois qu'il faut être très clair, la France est un des pays les plus riches, c'est l'un des pays les plus puissants, donc l'un des pays les plus sûrs, donc l'un des pays qui attire les investisseurs qui souhaitent placer leur épargne. Donc c'est la raison pour laquelle la France est bien notée. Ensuite, la France est plutôt dans une logique où actuellement, et depuis un certain temps, on va dire, les perspectives deviennent moins bonnes, et en particulier, ses finances publiques sont moins bien gérées. Et donc là, c'est un peu comme à l'école, vous disiez tout à l'heure, 17, 16, on va dire, pour Fitch, on est à 16, pour Moody's, on est à 17. C'est le problème du changement de note. C'est-à-dire, est-ce que quand vous passez à 15, ils regardent le 15 où ils disent non, tu as baissé. Et c'est un peu le problème de la France aujourd'hui. C'est que d'abord, on se demande si elle va baisser. Attention, elle peut baisser aussi de plus d'un point. Hein, ça peut baisser plus fortement ou ça peut baisser plusieurs fois de 3 mois en 3 mois. Et en effet, la question, chaque fois, c'est de se dire quelles vont être les conséquences. C'est vraiment toujours la cible peut-être à la note scolaire. Je suis quand même dans la tête de classe. Oui, mais tu n'auras peut-être pas la meilleure prépa. Et tout d'un coup, on dit, ah oui, mais dis donc, ça peut être grave pour le futur. C'est un peu cette situation dans laquelle nous nous trouvons depuis plusieurs mois. Et en effet, ce soir, on attend avec un peu d'anxiété l'évolution de ces deux agences qui, normalement, d'ailleurs, ne sont pas les plus rudes. La plus dure, c'est celle dans un mois, Standard & Poor's, qui nous avait mis en perspective négative, c'est-à-dire qui avait toutes les raisons de nous dégrader, alors que les deux qui vont publier ce soir, normalement, nous avaient mis en perspective stable.
Alors, ça paraît limpide quand vous l'expliquez, notamment avec les chiffres, 16, 17. Si on est précis, Fitch, c'est AA- aujourd'hui, et Moody's, c'est AA2. Voilà. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
Non, je dirais là, on est dans un domaine technique. On est dans un domaine technique qui, probablement, à la base, n'était pas fait pour faire la une de France Info et du journal de 20 heures. C'est vraiment quelque chose destiné aux investisseurs pour leur permettre d'apprécier l'augmentation du risque. Et là, quand nous sommes un bon pays, en fait, ce que mesurent les agences de notation, c'est le risque de défaut. C'est le fait qu'on ne paye pas la dette à l'expiration. Et donc, on est clair. Il y a quand même très, très, très peu de risques de ne pas rembourser sa dette. C'est pour ça qu'on est bien noté. Mais en revanche, pour les investisseurs, la variation est importante. Et là, en effet, quand vous évoquez, alors bon, effectivement, quand vous dites A2, il y a possibilité d'aller jusqu'à A3 chez Moody's. Donc, rester double A jusqu'à 3. Alors que si, chez Fitch, on quitte la note actuelle, on ne sera plus double A. On passera single A, juste A. Donc, voilà, c'est un peu la variation. Il y a cet élément technique qui est souvent difficile à comprendre. Public, mais contrairement peut-être à ce que peuvent dire un certain nombre de commentaires, ce n'est pas du tout considéré comme neutre par la communauté financière, loin s'en faut. C'est un indicateur très important, et quand je parle de la communauté financière, je parle de banques, de nos banques, de nos compagnies d'assurance, qui surveillent aussi avec beaucoup d'attention l'évolution des notes des pays, notamment des pays qui les abritent.
Alors la communauté financière surveille, mais la communauté politique aussi, même si on peut se dire c'est pas dramatique, on a quand même une bonne note, Adrien Brachet, ça a évidemment des conséquences politiques, et ce sera une très mauvaise nouvelle pour certains.
Oui, en particulier pour le gouvernement et pour Emmanuel Macron dans le cadre de la campagne des élections européennes, notamment car depuis quelques temps, en fait, en gros, depuis l'annonce par l'INSEE du déficit public bien plus élevé que prévu, les Républicains en ont fait leur sujet majeur de campagne dans cette campagne des européennes. Ils brandissent la menace de la motion de censure. Et donc, il est certain que s'il y avait une dégradation de la note, au fond, le risque à court terme n'est pas franchement économique. En tout cas, à court terme, la France va pouvoir continuer à emprunter. Mais c'est vrai qu'à plus court terme, ça peut entraîner des débats politiques, des bouleversements politiques. Et encore ce matin, Éric Ciotti s'exprimait là-dessus dans l'opinion. Donc c'est certain qu'à la minute où cette note est dégradée, ou alors elle le sera peut-être pas, mais si elle l'est, à la minute où elle est dégradée, vous aurez une mobilisation des Républicains qui essaient de récupérer, si vous voulez, l'électorat de droite libérale attaché au sérieux budgétaire, qui lui est un électorat traditionnel, mais qui est parti ces dernières années chez Emmanuel Macron.
Vous nous direz, Véronique Ressou, si comment tout le monde suit ces lettres, ces chiffres un peu complexes. D'abord le fil info, puisqu'il est 20h11. Stéphane Milhomme.
Rue Saint-Guillaume à Paris, les CRS ont lancé les dernières sommations. La préfecture de police demande l'évacuation de ce secteur devant Sciences Po. Des manifestants pro-palestiniens restent assis sur le bitume, d'autres sont déjà partis. Ils ont fait face dans l'après-midi à des militants pro-israéliens. Vous l'avez suivi sur France Info, Tony Estanguet a reçu la flamme olympique, c'était près d'Athènes. Le patron des Jeux de Paris le confirme, le nageur Florent Manaudou sera le premier porteur de la flamme dès son arrivée en France, c'est-à-dire dans 12 jours. Avant cela, cette flamme va traverser la Méditerranée à bord du voilier le Bel M. Dans le Pas-de-Calais, une centaine de collégiens et lycéens impliqués dans un accident entre deux autocars et un camion. Selon France Bleu Nord, le premier bilan est de 25 blessés, dont un grave. Ça s'est passé vers 16h30 au niveau de la rocade portuaire de Calais. Et puis une lente reprise de la circulation des TGV entre Paris et l'Est de la France dans les deux sens. Gros retard depuis la mi-journée après une rupture de caténaire dans la Marne. Trafic encore perturbé demain.
France Info.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Avec ce soir Alexandra Saviana de l'Express, Adrien Brachet de Marianne, Véronique Ressou de Backbone Consulting, et on est avec l'économiste Philippe de Sertine. Alors sur les réseaux sociaux, ça dit quoi de ce charabia?
C'est suivi sans être vraiment suivi. Effectivement, les oppositions s'emparent du sujet pour dire que c'est la démonstration d'une forme d'incompétence. Mais ils font monter la pression parce qu'il y a une troisième agence de notation qui va arriver. Et là, la date, elle n'est pas anodine parce que c'est 9 jours avant le vote. Donc en fait, s'il y avait une note beaucoup plus basse, ça mobiliserait sans doute un certain nombre d'électeurs. Et on sait que pour ces élections, l'un des enjeux, c'est quand même la participation et la mobilisation des uns et des autres. Ensuite, les Français, on en a déjà parlé, mais ils font vraiment la différence entre la dette et le déficit. Et donc, en fait, les débats sont plus autour de ça, en disant une dette, on sait, à un moment donné, vous êtes capable de la rembourser. Ça peut prendre du temps, ça peut être compliqué, mais vous pouvez la rembourser. Un déficit, c'est ça qui inquiète vraiment les Français. Et tous les débats d'experts qu'il y a en ce moment donnent l'impression que nous avons un déficit qui est extrêmement important, qui ne fait que se creuser, qui est compliqué. Donc certes, il y a un clivage à droite et à gauche, mais les Français le ramènent forcément à leur quotidien, s'inquiètent sur quelle va être l'incidence de ce déficit sur leur vie quotidienne et donc quelle va être l'incidence de cette notation sur leur quotidien, et ne sont pas très optimistes, honnêtement, même s'il n'y a pas des volumes incroyables de discussions, ils ne sont pas très optimistes.
Alors ceci dit, c'est vrai que certains donc disent que ça n'est pas grave, que la France va continuer à se faire prêter de l'argent sans problème, mais ça influe de fait sur le quotidien, parce que réforme des retraites, parce que tout ça est fait, les règles d'indemnisation des chômeurs, Philippe de Sertine, toutes ces règles-là, quand on les modifie, c'est aussi pour rassurer les agences de notation.
Oui, enfin, toujours pareil, l'agence de notation, c'est juste en elle-même, elle n'est pas très très importante. Ce qui est important, ce sont en effet, un, les prêteurs, ceux qui vont nous apporter de l'argent lorsque nous n'avons pas assez d'impôts pour financer nos dépenses publiques.
C'est Et eux, ils vont continuer, quoi qu'il arrive. Ils se disent que la France ne va pas faire faillite demain, quoi.
Oui, c'est ça, mais sauf que ça veut dire, si vous voulez, que là, on peut avoir un prix qui augmente, le taux d'intérêt peut augmenter, et peut-être quand même, si vous me permettez de rajouter cet élément qu'on ne cite pas assez, c'est qu'on fragilise aussi, lorsque vous avez la dégradation de la dette, vous fragilisez non seulement l'État lui-même, c'est-à-dire que l'ensemble des banques françaises qui détiennent de la dette française sont dégradées, entre guillemets, avec elles, parce qu'elles ont des actifs qui sont un peu... Donc, on peut avoir des incidences économiques à plus long terme. Et vous voyez, souvent, c'est ça le problème, c'est que ça ne fait pas toute une, mais on se rend compte après coup que nous avons des conséquences. C'est d'ailleurs l'inverse, le Portugal qui est en perspective positive, lui par exemple, un pays de l'Europe dans lequel les agences risquent d'augmenter sa dette, améliore évidemment le financement de l'État, mais améliore aussi les conditions de financement de son économie, ce qui donne normalement plus de dynamisme et plus de perspectives de croissance.
Alors, la une de l'Express, et on va la voir pour ceux qui nous suivent sur le canal 27, est frappante parce que pour vous, Alexandra Saviana, vous personnellement, je ne sais pas, mais en tout cas pour l'Express, la France est plombée dans cette histoire.
Oui, on a essayé un petit peu de comprendre à l'aide d'une grande enquête. Alors, ce n'est pas que l'Express, ce sont des experts, des hauts fonctionnaires, des économistes qui tentent d'ausculter pourquoi le déficit a triplé en 6 ans, ce qui s'est passé. Et donc, l'exécutif a beau jeu de dire on a subi des crises imprévues, on pense au Covid, on pense à la guerre en Ukraine. En auscultant tout ça, on se rend compte qu'on se retrouve face un peu à un état nounou, dont les fonctions régaliennes prennent l'eau, donc la justice, l'intérieur, et qui pourtant a des dépenses sociales qui crèvent le plafond par rapport à la moyenne européenne. Et donc on essaie un petit peu d'ausculter tout ça et de comprendre. Et le bilan, c'est qu'on a constamment, en fait, des régimes sociaux qui sont en déficit structurel, et que personne n'est content, finalement, des services publics. Et donc, du coup, on essaie un petit peu de mettre tout ça en lumière et d'expliquer d'où vient la dérive de la dette et à quel point, en fait, ce n'est pas que conjoncturel, mais c'est aussi le fruit d'une vraie politique de l'exécutif.
Qu'est-ce que les agences regardent de tout ce contexte, notamment international, Philippe de Sertine ? D'ailleurs, peut-être qu'il faut expliquer comment fonctionnent ces agences. C'est qui Fitch et Moody's ?
Donc, ce sont des sociétés privées. À l'origine, vous voyez, c'était des journaux. C'était des journalistes au 19e siècle qui regardaient la solidité des emprunteurs. Ils donnaient une appréciation, alors avec un certain nombre de critères, qui étaient en général des critères statistiques. Donc en regardant, vous avez tant d'argent à tel moment, donc vous avez toutes les chances de pouvoir rembourser votre dette, donc vous êtes noté AAA. C'était ça l'origine, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Alors, ces agences gagnent de l'argent lorsque on leur demande de noter de la dette privée. Attention, c'est clair, elles notent les États de façon gracieuse. C'est une publicité pour elles, en quelque sorte. Vous voyez, mais leur vrai marché, c'est lorsque vous allez avoir des entreprises qui doivent émettre de la dette et qui vont demander une notation. Quand on demande la notation, on n'est pas sûr qu'on aura une bonne note ou une mauvaise note. L'agence va dire, je regarde comment vous fonctionnez et je regarde quel est le risque qu'à un moment donné, vous ne puissiez pas rembourser. C'est ça l'idée. Parfois, d'ailleurs, l'agence l'agent refuse de noter en disant « le risque est trop fort, je ne veux même pas considérer que vous pouvez normalement contracter de la dette ». Donc l'agence fonctionne, les grandes agences, les trois grandes agences américaines qu'on vient d'évoquer, souvent d'ailleurs on a reproché, on a trouvé qu'il n'y en avait pas assez, en fait ont une force du point de vue statistique et du point de vue de leur crédibilité, c'est-à-dire qu'en fait quand elles notent, elles se trompent rarement. Et donc, effectivement, on considère que l'erreur est jamais impossible. Hein. On a eu, évidemment, des exemples fameux. Lorsque vous avez eu Enron, ils étaient encore notés AAA 3 mois avant. Hein. Donc, on peut avoir des erreurs qui sont quand même assez monumentales. Mais globalement, on va considérer que les agences font un travail considéré comme satisfaisant, donc les investisseurs les valident. C'est vraiment un système qui est un système purement privé, dans lequel la note de l'État intervient, parce qu'évidemment, les emprunteurs sont aussi bien privés que publics, hein, et on va dire les prêteurs peuvent prêter un coup à l'État et un coup à l'entreprise. Oui. Donc c'est la même agence qui fait le travail pour la dette de l'État, mais elle le fait gracieusement.
Et, là, et si on a bien compris, on vous a bien entendu tout à l'heure, c'est Standard & Poor's qui est la plus redoutée ou la plus écoutée, c'est ça ? Si il fallait faire un classement.
En ce qui concerne la France, d'accord. Ça dépend, parce que souvent on considère que c'est Moody's la plus dure, mais en ce qui concerne la France, S&P, on dit maintenant Standard & Poor's, c'était l'ancien, S&P Rating Global, pardon, est actuellement la plus pessimiste sur la dette, en effet.
Alors, Véronique Ressout ?
Et c'est celle-là qui est attendue 9 jours
avant. C'est ça. Alors, vous soulignez tout à l'heure, Philippe de Sertine, quelque chose d'intéressant. C'est vrai que ces histoires de notes, pendant longtemps, le grand public ne s'y est pas intéressé. Si je ne dis pas de bêtises, c'est Nicolas Sarkozy qui avait agité dans les années 60, dans les années 2010 plutôt, la perte d'un triple A comme un épouvantail. Et c'est de là que tout est parti, en fait.
Oui, et ce qui est intéressant, paradoxalement, c'est qu'aujourd'hui, il y a une focalisation sur cette question de la note des agences de notation, alors qu'a eu lieu mardi un vote très important au Parlement européen qui était le vote sur la réforme des règles budgétaires de l'Union européenne qui visait notamment à assouplir certaines mesures, mais à la demande de l'Allemagne notamment, il y a certaines contraintes qui ont été maintenues, ce qui maintient, si vous voulez, l'Union européenne dans une vision un peu austéritaire ou en tout cas très rigoureuse d'un point de vue budgétaire. Et donc, si vous voulez, cette réforme budgétaire, bon, qui est complexe mais qui est presque plus importante pour l'avenir des politiques économiques des pays européens, elle a été votée, avec notamment bon, l'opposition de la gauche française, mais on n'en parle quasiment pas, et on parle plus de la notation des agences qui, à court terme, n'aura pas nécessairement un impact.
Il n'y a pas de note pour l'Europe, du budget européen.
Non,
il y a une note pour l'Europe.
Il y a une note pour l'Europe. Qui se comporte comment ?
L'Europe.
Qui, pardon ? On a une petite coupure.
L'Europe est notée triple A.
Ah oui.
Donc, quant à l'empreinte, elle est notée triple A. Donc, on considère qu'il y a un très, très faible risque de défaut.
Bon, est-ce que quelqu'un sait si à Bercy, les soirs de notation, il y a un cérémonial, une attente, un suspense, une angoisse?
Alors, je crois qu'ils les reçoivent un petit peu en avance par des mails ou des courriers confidentiels quelques heures avant. Mais en tout cas, ces derniers jours, c'est vrai que tous les conseillers politiques s'agitaient autour de cette annonce.
Alexandra, c'est bien là ? Pas de fuite sur l'info. Allez, on referme ce dossier. Vous restez avec nous, Philippe de Sertine. Si vous nous donnez encore quelques minutes, on pourrait évoquer la crise de la construction et le logement. Ce sera après le fil info, puisqu'il est 20h21, Stéphane Milhomme.
Dans le calme et par petits groupes, l'évacuation de la rue Saint-Guillaume à Paris a commencé aux abords de Sciences Po. C'est une demande de la préfecture de police, alors que d'autres manifestants pro-palestiniens restent massés sur le bitume. Les locaux sont toujours occupés. Des militants pro-israéliens ont été évacués en fin d'après-midi. L'adolescent au Savoyard de 16 ans présenté ce soir à un juge antiterroriste connu pour radicalisation. Ce jeune est soupçonné d'avoir préparé une action violente pendant les Jeux Olympiques, quartier de la Défense. Il a été interpellé mardi après avoir proféré des menaces sur le réseau social Telegram. Washington annonce 6 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine. Cet argent est pris dans l'enveloppe de 61 milliards votée la semaine dernière par le Congrès américain. Le but est bien d'accélérer la livraison d'armes aux Ukrainiens après des mois d'attente. C'est la première fois dans l'histoire qu'un pape assistera aux travaux d'un G7. François participera en juin au sommet consacré aux défis que pose l'intelligence artificielle. Ce sera dans les Pouilles, au sud de l'Italie, en présence des dirigeants des 7 pays les plus industrialisés.
France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Véronique Rissoult est là pour Backbook Consulting, Adrien Brachet pour le Marianne, Alexandra Saviana pour l'Express et l'économiste Philippe Dessertine qui nous apporte ses lumières aussi sur ce deuxième sujet. La PDG du groupe immobilier Next City a donc confirmé ce matin sur France Info la suppression de 502 postes. 400 personnes avaient déjà quitté l'entreprise avant même ce plan. La cause, dit-elle et dit le groupe, c'est une crise conjoncturelle et aussi une défaillance du gouvernement. Maintenant, il faut agir, dit Véronique Bédague.
Le gouvernement a au fond, et les banques aussi, se sont mis à soutenir davantage les primo-accédants. Il y a eu des efforts faits sur le prêt à taux zéro. Hein, et maintenant, ce qu'il faut vraiment faire, c'est ramener les investisseurs dans le secteur du logement. Elisabeth Borne, en sortie du Conseil national de refondation logement, avait dit... Le fameux CNR avait dit, dès la prochaine loi de finances, on prendra des dispositions pour rendre plus attractif l'investissement en logement. Ça n'a pas été fait. Il faut travailler la fiscalité. Quand vous êtes investisseur particulier, vous avez l'impôt sur le revenu. Vous avez une taxe foncière. Ça n'existe pas sur les autres. Et une taxe foncière, vous le voyez bien, qui reste la seule ressource fiscale des collectivités et qui augmente beaucoup tous les ans. Et puis certains aussi, des investisseurs, ont de l'IFI. Et tout ça, ça rend fiscalement, au fond, l'investissement en logement très défavorisé par rapport aux autres investissements.
Philippe Dessertine, est-ce que le marché du logement neuf est bloqué aujourd'hui dans cette pénurie de logements et ses prix très élevés ?
Donc là, en fait, on a bien un lien entre les deux sujets, hein, puisque le vrai problème que rencontre l'ensemble, d'ailleurs, du logement, la construction du point de vue mondial hein, est en difficulté, c'est la problématique de la hausse des taux. C'est l'augmentation des taux d'intérêt qui rend extrêmement coûteux, on va dire, l'accès au logement et le resserrement du crédit a fait qu'un certain nombre de personnes qui voudraient acheter leur logement, notamment les jeunes, ne peuvent plus le faire. Donc vous avez vraiment une restriction très très forte de la demande qui s'est traduite en ce qui concerne Next City comme beaucoup d'autres promoteurs immobiliers sur le logement neuf par une crise en France comme on n'a jamais vu. On n'a jamais eu un effondrement pareil et donc en effet on est avec des licenciements mais on est avec des choses qui sont aussi peut-être moins apparentes dans l'information, mais un effondrement de beaucoup, beaucoup de toutes petites entreprises, des entreprises dans le bâtiment et dans la construction, qui sont souvent, on va dire, le réseau vital de l'économie des territoires. Donc le logement, c'est une énorme pénurie de logements ensuite pour les personnes. Et évidemment que la précarité vient aujourd'hui d'abord du coût du logement ou de l'absence de solutions de logement, et ensuite un certain nombre de conséquences très très graves dans le tissu économique, et notamment le tissu économique autour de, on va dire, l'ensemble de la construction. Vous connaissez l'adage, hein, quand le bâtiment va, tout va.
Eh oui.
Quand le bâtiment va pas, rien ne va. Je crois que vraiment on est aujourd'hui au cœur de cette crise.
Véronique Rissoult, vous nous en parlez, mais très souvent, de ce sujet logement qui est extrêmement présent. On comprend aussi, avec ce que dit Philippe Dessertine, que c'est non seulement les gens qui cherchent un logement, mais c'est toute une économie, et dans les territoires notamment.
C'est un sujet d'inquiétude très important sur le pouvoir d'achat. Je vous en ai souvent parlé parce que c'est un sujet de conversation constant. C'est le premier poste des foyers, que ce soit en location ou que ce soit à l'achat. C'est la première dépense. Au point où, quand on regarde les messages depuis quelques temps, et particulièrement ces dernières semaines, certains vont jusqu'à dire et comparent cette crise à celle de la Seconde Guerre mondiale en disant on est quasiment dans cet état là tellement c'est grave, on n'a jamais été dans une telle situation, que ce soit du côté des investisseurs où eux disent finalement c'est un marché qui n'a plus d'attrait, ou du côté des particuliers avec une réalité de demande très forte pour les primo-accédants bien sûr, mais pour les jeunes, et puis globalement les taux zéro, ils demandent beaucoup plus d'aide et de soutien des banques en disant que c'est très difficile d'avoir des prêts, donc on a beau dire que les banques font des efforts, les Français le ressentent pas comme ça, et puis ensuite on voit bien que ils ont l'impression que c'est finalement une crise structurelle, parce que ça fait tellement longtemps que ils le demandent. C'était d'ailleurs pour ça, rappelez-vous, quand il y avait eu le remaniement et que le ministre du logement n'était pas nommé
absolument,
pendant un mois,
j'allais y venir, oui.
Et que les Français le réclamaient, c'était le seul ministère où ils ne comprenaient pas qu'ils ne fassent pas partie de la première salve. Eh bien, on voit bien que cette inquiétude, elle monte, elle est grandissante. C'est un sujet de conversation, en fait, larvé, inquiétant. Et on aurait pu se dire même que les annonces qui ont été faites ce matin par Madame Bédague auraient été pas mal commenté parce qu'on a une réalité de perte d'emploi. Alors, hormis un petit sujet qui est qu'elle a expliqué que les collaborateurs étaient une variable d'ajustement. Bon, ça, c'est pas trop passé. C'était un peu commenté. Mais le reste, en fait, non, parce que cette situation de Next City, c'est pas tellement ça qui préoccupe les Français. Ils se disent, les acteurs peuvent changer, les choses peuvent évoluer. Le vrai sujet, c'est que eux, dans leur quotidien, ils sont énormément impactés, les loyers augmentent, ils ont de plus en plus de mal à se loger, les jeunes doivent rester chez leurs parents, les jeunes couples ne peuvent pas s'installer, enfin bref, je vais pas lister tous les problèmes qu'ils rencontrent.
Question rapide, parce que je sais que vous devez filer, Philippe de Sertine, deux choses. D'abord, la crise concerne aussi le prix des locations, forcément, c'est lié.
Forcément, c'est lié. Forcément. Et c'est ça qui est terrible, évidemment, dans la problématique logement, c'est que vous allez avoir, je dirais, un problème de pénurie, qui va faire que, en effet, les prix restent élevés, les investisseurs sont peu nombreux, et d'où, évidemment, des loyers aussi qui augmentent. Rappelons-le, nous avons l'augmentation des taux qui provient de l'inflation. Et peut-être encore, là, vous voyez, il faut relier tous les sujets entre eux. L'augmentation des taux, je dirais, qui est la réponse à l'inflation, c'est empêcher de créer de la dette, parce que la dette est inflationniste. Et donc là, on retrouve vraiment toutes les problématiques autour du logement, une espèce de cercle vicieux. On ne voit pas comment en sortir. Et quand on évoque les mesures possibles qui ont été suggérées tout à l'heure par la présidente de Next City, les mesures, ce sont des mesures gouvernementales, des mesures d'allègement fiscal, mais l'État est en déficit énorme et n'a aucune faculté justement pour essayer de récupérer du financement du point de vue de sa fiscalité. Mmh. Et pour conclure le tout, en plus, cette fiscalité en partie, elle permet de financer les collectivités locales qui sont elles aussi en situation très très tendue du point de vue de leurs finances. Partout où on se tourne, compliqué.
Juste pour terminer, quand le gouvernement dit qu'il attend une baisse des taux qui favoriserait les ventes, est-ce qu'elle se profile ?
Alors, jusqu'au début de semaine, je dirais tous mes collègues vous auraient dit oui, non, ça va arriver en juin. Et puis cette semaine, on a eu des mauvaises alertes. Les taux qui commençaient à baisser vraiment début de semaine, c'est pour ça vous voyez que c'est difficile à se projeter, ont recommencé à se tendre en fin de semaine. Pourquoi ? Parce que l'inflation s'avère beaucoup plus forte que prévu, notamment aux États-Unis. Donc l'inflation remontant, non seulement on craint que la Banque centrale américaine ne baisse pas les taux comme on le pensait, mais même certains opérateurs de marché commencent à se demander si ça ne va pas continuer à augmenter ces taux au mois de juin. Et auquel cas, alors là, toutes les prévisions optimistes dans lesquelles on était, y compris sur l'immobilier, évidemment, ces prévisions-là risqueraient de devenir caduques. Donc, en réalité, l'inflation au niveau mondial qui va être l'élément central, et l'inflation au niveau mondial, on le voit bien au quotidien, elle est fonction de plein d'événements et pas simplement d'événements économiques. Il suffit évidemment d'une tension géopolitique pour que les prix, par exemple, de l'énergie remontent.
Merci beaucoup Philippe de Sertine, directeur de l'Institut de Haute Finance, et vous enseignez aussi la finance à l'IAE, à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Merci beaucoup d'avoir été dans Les Informés. On poursuit cet échange avec Les Informés après le point sur l'info, puisqu'il est 20h30 sur France Info. Et bonsoir Thomas Giraudeau.
Bonsoir Bérangère, bonsoir à tous. Après sa sœur, l'or, Florent Manaudou portera lui aussi la flamme olympique. Il sera le premier sur le sol français. Ce sera le 8 mai à Marseille où la torche descendra du Belém, le bateau à bord duquel elle s'apprête à embarquer en Grèce. C'est tout à l'heure l'annonce qu'a faite le président du comité d'organisation des Jeux, Tony Estanguet, qui a reçu officiellement la flamme lors de la traditionnelle cérémonie de passation à Athènes. Leur note est attendue aux alentours de 22h. Les agences de notation américaines Fitch et Moody's vont donner leur nouvel avis sur la soutenabilité de la dette française, un indicateur scruté après l'annonce de la dégradation des comptes publics et la croissance plus faible que prévue. Des étudiants pro-palestiniens commencent à être évacués par petits groupes par les CRS. Ils occupaient aujourd'hui la rue Saint-Guillaume à Paris devant Sciences Po, la grande école bloquée, fermée. Des tensions ont éclaté plus tôt cet après-midi entre cette centaine d'étudiants pro-palestiniens et des militants pro-israéliens venus s'opposer au mouvement. Les trains peuvent de nouveau circuler depuis une heure sur la ligne à grande vitesse entre Paris et l'Est de la France. Les TGV ont dû être déroutés sur la ligne classique et rouler beaucoup moins vite tout l'après-midi après la rupture de caténaire sur la LGV. Les trains ont accusé jusqu'à 6 heures de retard en pleine période de vacances scolaires en région Grand Est. Un prêtre à la retraite est mis en examen à Tours pour viol sur deux femmes et agression sexuelle sur une autre rencontrée durant l'exercice de son ministère. Les faits se sont produits entre 2008 et 2017. Et puis le Beyfortus produit ses effets d'après Santé et Public France. Ce nouveau traitement contre la bronchiolite administré depuis l'automne dernier aux bébés a permis d'éviter l'hospitalisation de près de 6000 très jeunes enfants.
France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
En compagnie ce soir d'Adrien Brachet, service politique de Marianne Alexandra, Saviana, journaliste au service Société de l'Express, et Véronique Ressout, présidente de Backbone Consulting. On parle de la construction du logement. C'est vrai que ces histoires de taux d'intérêt ont des impacts immédiat sur nous, vous, tout le monde, sur le commun des mortels, et c'est quand même le cœur du sujet, Alexandra Saviana.
Oui, en fait, ils illustrent assez bien pourquoi on comprend l'hésitation des Français à acheter, à contracter des prêts. Je regardais les chiffres, des études qui montraient cet après-midi que pour devenir propriétaire, aujourd'hui, quand on acquiert une maison, pour rentabiliser cet achat, il faut attendre 15 ans. Pour comparer, il y a 10 ans, il fallait seulement attendre 4 ans. Donc forcément, les gens font le contrebalancier, locataire, propriétaire, et choisissent locataire, souvent. C'est moins onéreux. Mais le problème, c'est que cette situation n'a pas de solution, parce que si on regarde les études de la Fondation l'Abbé Pierre, par exemple, on se retrouve avec 4,2 millions de mal logés en France aujourd'hui. Donc il y a un vrai problème de construction de logements neufs et de réhabilitation du logement ancien. L'année dernière, c'était seulement 4,1 millions de personnes. Et ça, c'est sans compter tout le halo des gens qui sont mal logés, moins bien logés, où on est à 8,1 millions de Français. Donc on est face à une crise de l'immobilier, on est face à une crise du logement, et on est face aussi à une crise économique que soulignait Philippe de Sertine tout à l'heure, avec un tissu industriel et du BTP qui est en train de souffrir très fort. Ça fait depuis l'année dernière qu'il tire la sonnette d'alarme, et aujourd'hui on en voit le résultat.
Est-ce qu'il y a une défaillance politique, Adrien Brachet ? J'entends par là, quand Véronique Ressout tout à l'heure parlait, effectivement, au moment du remaniement, constatait qu'il manquait, parmi les quelques ministères, celui du logement.
C'est vrai qu'il y a eu cet épisode qui a marqué quand même.
Un retard à percevoir la gravité de la crise.
Oui, alors il y a deux choses. En effet, il y a eu, on pourrait dire que c'est anecdotique, mais c'est quand même un symbole, ce temps qu'il a fallu pour qu'on finisse par nommer un ministre du logement au moment
ça
du remaniement.
C'est quelque chose qui n'est pas une priorité.
Ça donne cette impression, une impression d'improvisation ou de sujet relégué au second plan. Et la deuxième difficulté, je dirais, c'est que le gouvernement tend à avoir une approche très paramétrique du sujet en disant on va agir sur l'accès au prêt à taux zéro, sur la construction, mais a tendance à insuffisamment aborder le sujet dans sa globalité, et notamment la question de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire que la question du logement, c'est aussi le fait que vous avez une très forte inégalité entre l'attractivité des zones. Vous avez des zones où vous avez énormément de demandes, des prix très élevés, et à côté vous avez toute une série de, par exemple, de centres-villes, de petites villes ou de villes moyennes où vous avez des logements vacants, et donc tout cela demande une réflexion globale pour relocaliser l'activité économique dans des plus petites villes, dans des plus petits territoires, pour réindustrialiser certains endroits. Et donc on ne peut pas avoir une approche du logement seulement focalisée sur l'accès au logement. Si vous voulez, ce doit être mis dans une politique économique beaucoup plus globale, et c'est peut-être ça qui manque aux yeux des Français aujourd'hui.
Cet aspect territoire, Véronique Ressout, j'imagine que ça, vous le percevez.
Oui, on le perçoit parce que les uns les autres comparent, essayent de savoir quels sont les meilleurs plans, comment est-ce qu'on peut faire. On voit que évidemment, les gens sont obligés d'habiter de plus en plus loin de leur lieu de travail parce que voilà, les loyers sont moins élevés, et vous avez en plus une nouveauté un phénomène grandissant qui sont les familles monoparentales, qui ne font que complexifier aussi ce sujet-là, parce que ça fait deux familles tout d'un coup qui ont besoin de se loger, mais de se loger pas loin. Donc si l'un des deux part un peu plus loin parce que c'est moins cher, c'est pas forcément le cas du premier. Donc on voit bien que effectivement c'est un sujet non seulement économique de façon globale, mais sociétal aussi de façon globale. Donc on peut pas juste prendre le sujet par un tout petit bout.
Ouais. Il y avait un aspect intéressant que soulignait Véronique Bédac, qu'on entendait tout à l'heure, c'est les efforts réalisés par les banques, dit-elle, pour soutenir les primo-accédants. Moi, j'avais pas forcément ça en tête.
Ben,
vous avez l'air de tiquer, d'ailleurs.
Oui, parce que quand on regarde les témoignages des uns et des autres, c'est pas... Alors, c'est peut-être la différence entre le ressenti et le réel que pour la météo, j'en sais
vous
rien.
Mais ça,
en tout cas, ah oui, il y a beaucoup de témoignages de gens qui sont désespérés en disant, c'est ma cinquième banque, on m'a m'ont encore refusé. On m'avait promis que, soi-disant, il y a une aide.
Bon,
il
mais
y a
beaucoup ceux de qui l'ont, qui... leur prêt, ils le signalent peut-être pas.
Si, généralement, on a droit à champagne, youpi, ça y est, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a plus de gens qui racontent des histoires où c'est difficile et ils n'arrivent pas à avoir ces fameux prêts.
C'est un enjeu, ça, Alexandra Saviana, les primo-accédants.
Oui, et à noter pourtant que l'âge des primo-accédants a reculé. Ils ont rajeuni depuis 10 ans. C'est-à-dire, c'est contre-intuitif, mais au début des années 2000-2010, on accédait à la propriété à 36-38 ans. Et aujourd'hui, c'est mieux, quelque part, parce qu'on y accède à 32-35 ans. Et ça s'est stabilisé. Ça, c'est notamment dû au fait qu'il y avait eu des taux extrêmement bas, notamment grâce aux banques en ligne, qui aujourd'hui ne se pratiquent plus. Donc, à voir si cette moyenne de 32-35 ans va bouger à l'avenir ou pas.
Adrien,
oui, ce qui est intéressant sur ce sujet-là, c'est que cette question de l'accès à la propriété, c'est quelque chose qui unit quasiment les Français, en tout cas dans leurs rêves et dans les aspirations. Il y avait, l'an dernier, il y a eu une enquête très intéressante de la Fondation Jean Jaurès et qui montrait que pour 88% des Français, donc près de 9 Français sur 10, l'idéal c'était d'accéder à la propriété. Donc, contrairement à tout ce qu'on peut dire, ça reste une aspiration très forte et c'est pour ça que ce sujet, politiquement, touche autant les gens.
Prêt à taux zéro, c'est ce qu'elle souligne aussi, c'est que c'est aussi via ce soutien-là que les banques, vous allez dire de tiquer encore une fois, mais il pèse encore beaucoup le prêt à taux zéro. Quelqu'un n'est pas obligé
Les conditions d'accès sont quand même assez compliquées, elles ne s'adressent pas à tout le monde. Ouais. Donc est-ce que ça se fait vraiment? Je ne sais pas, en tout cas les témoignages n'ont pas l'air de dire ça, mais par contre les conditions, elles sont pas pour tous les Français, loin de là.
Allez, on va refermer cette page sur la construction et le logement dans un instant, juste après le fil info de Stéphane Milhomme. On s'intéressera à la GPA avec une semaine marquée par une polémique qu'on va redérouler et je vous disais une sorte de quelque chose qui ressemble quand même vraiment à une fake news au Parlement européen. Et ça tombe bien, Véronique Ressoult est là pour nous expliquer tout ça. 20h40 sur France Info, le fil info, Stéphane Milhomme.
Les manifestants quittent la rue Saint-Guillaume dans le calme et par petits groupes, certains en filmant la scène, escortés par les CRS. C'est une demande de la préfecture de police. L'évacuation de la rue aux abords de Sciences Po Paris a donc commencé, mais l'établissement est toujours occupé par ces militants pro-palestiniens. Le vidéaste d'extrême droite Papacito, condamné à une amende de 5 000 €, le vice-procureur de Paris estime que ces vidéos ont contribué à susciter l'acharnement qui s'était abattu sur le maire de la région toulousaine. L'élu avait reçu des menaces de mort. Le motif, un conflit de voisinage. L'armée russe affirme avoir frappé un train transportant des armements occidentaux qui devaient être livrés aux Ukrainiens. C'était dans la localité d'Oudachne. Le ministère russe de la Défense ne donne pas de précision sur le résultat de cette frappe. Et puis, le roi Charles III de Grande-Bretagne va reprendre la semaine prochaine ses activités publiques malgré son cancer. Son état de santé est jugé encourageant par ses médecins. Il a suspendu ses activités au début du mois de février.
France Info. 20h-21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Compagnie ce soir d'Adrien Brachet, de Marianne, Alexandra Saviana, de L'Express, Véronique Ressoult, de Backbone Consulting. Et l'on reparle donc de GPA, avec une semaine marquée par la naissance des jumeaux du créateur de mode Jacquemus. Beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux immédiatement, de Victoria Beckham à Carla Bruni, des anonymes aussi. Et au Parlement européen, on va y venir, une fake news dans la foulée. Lundi donc, Simon Porte-Jacquemus, le créateur, annonce sur Instagram la naissance de Mia et Soon, je pense qu'on dit comme ça, née d'une mère porteuse. Bienvenue sur Terre, mes amours. Nous vous aimons beaucoup, notre rêve est devenu réalité. C'est ce qu'il écrit sous une photo de main de nouveau-né. Félicitations, donc, je vous le disais. Mais sur X, Marion Maréchal, la tête de liste Reconquête pour les Européennes, arrive avec cette question: où est la maman? Là, le buzz est assez violent, on va dire. Mardi, au Parlement européen arrive cette directive qui devait être révisée concernant la traite des êtres humains. Et là, c'est François-Xavier Bellamy, tête de liste LR aux Européennes, qui pousse pour faire voter ce texte et pour faire savoir que la directive va intégrer la GPA. Or, contrairement à ce qu'il dit, lui, Jordan Bardella, la GPA n'a pas été reconnue comme traite des êtres humains ni interdite en Europe. Et ce matin, sur France Info, c'est ce que soulignait l'ancien ministre Clément Beaune.
Il y a une fake news complète qui circule. Le texte européen que vous citez, il n'a pas du tout dit que la GPA, c'est de la traite des êtres humains. J'ai même entendu certains de vos collègues journalistes le dire tel quel. C'est un mensonge complet. Le Parlement européen, il a dit, dans un texte sur la traite des êtres humains, qu'il y avait différents cas, y compris l'exploitation de la GPA quand une force, une mère, a porté un enfant. Quand des réseaux forceraient, ça peut exister, des mères à porter des enfants ou à commettre différents actes de traite. C'est pas du tout la GPA en tant que telle qui a été déclaré par le Parlement européen comme un acte de traite des êtres humains. C'est quand même très important de le rappeler, parce que certains se sont engouffrés dans cette brèche pour des raisons idéologiques.
Alors, parmi ceux qui ont voté le texte, l'eurodéputé RN Gilles Le Breton, qui lui aussi a tweeté ce matin sur le fait qu'il avait voté l'interdiction de la GPA dans l'UE, et à qui j'ai fait remarquer sur France Info ce soir que ce n'était pas exact.
Nous avons fait un pas dans cette direction, ça c'est vrai.
Oui, mais vous n'avez pas interdit la GPA dans toute l'UE.
Oui, mais attendez, moi je ne fais pas des discours d'une heure pour tromper les gens. Je fais un tweet, et vous savez bien que dans un tweet, le nombre de mots étant limité, il faut être efficace.
C'est
et
pas possible.
La direction que nous avons prise, c'est bien celle-là.
C'est pas possible juste d'écrire, nous avons fait condamner la GPA dans les cas où la femme, la mère porteuse n'est pas consentante. C'est complètement différent.
Bah, écoutez, c'est pas complètement différent, non. Moi, je pense que pour qu'un message politique soit efficace dans le cadre d'un tweet, en tout cas, il doit être percutant.
Véronique Ressoul, qu'est-ce que ça vous inspire, y compris sur la perception d'un tweet par un élu de ce niveau?
Alors, d'abord, c'est intéressant de penser que parce que c'est un tweet, on a une pensée réduite, parce que finalement, quand on dit la vérité et les choses simplement, on a une pensée encore plus courte.
Ça doit vous faire plaisir, ça.
Voilà. Ensuite, il faut voir que ce phénomène, il est vraiment intéressant. Vous avez refait toute la chronologie de l'histoire depuis lundi. En soi, déjà, il faut se dire que ce post sur Instagram, tout seul, même avant que Madame Maréchal s'exprime, voilà, c'était quand même des chiffres assez importants, parce que vous aviez, vous avez plus de 6 millions d'abonnés. Vous avez eu plus de 14 000 messages à la suite de ce message. Vous avez plus de 800 000 likes. Enfin bref, ça a été très très suivi, très très soutenu, et ça a déclenché énormément de réactions. Quand Marion Maréchal réagit, ça produit aussi énormément de réactions, mais comme un peu moins en soi, voire même beaucoup moins, hormis que son expression étant extrêmement réduite, là pour le coup, extrêmement claire, extrêmement interpellante avec où est la maman, qui n'est pas le sujet fondamentalement sur lequel les uns et les autres s'exprimaient sur la GPA. En fait, ça relance un débat bien plus large et ça réveille énormément d'idées reçues et de fantasmes qu'il peut y avoir autour de ce sujet. Donc, quand le débat arrive de ce vote au Parlement européen, on est à plus de 200 000 messages juste sur la suite de cette polémique. Les Français commencent à s'intéresser au sujet et des nouvelles fake news arrivent. En plus de celles-là, on commence à entendre qu'il y aurait des assurances 2 ans. Quand vous faites une GPA, pendant 2 ans, vous pourrez y rapporter le bébé s'il ne vous plaît pas ou si vous avez un problème.
Comme quelque chose quoi, qui serait intégré là aussi dans la directive.
Voilà, en fait, les uns et les autres se sont mis à sortir énormément de choses, puisque c'est toujours pareil. Quand vous commencez à déformer, ce n'est pas forcément en soi totalement une fake news, mais une déformation de la réalité de ce que vous avez fait, eh bien, ça ouvre le champ à beaucoup de choses. Et on pouvait voir sur les réseaux des débats, je vous dis, jusqu'à... Donc, en fait, ce sont tellement des objets, les enfants, qu'on pourrait les rendre. Voilà. Bien évidemment, ça n'est pas le cas. Et donc, on voit que c'est intéressant parce que ça a fini par cliver à un point excessif avec des gens qui pour défendre leur point de vue, finissaient par inventer des choses improbables, mais tellement choquantes que ça interpelle les gens en face. Mmh. Et comme il y a un petit fond de vrai, ça prend, ça s'enflamme. Et les débats étaient extrêmement animés, extrêmement clair, et c'était intéressant parce qu'il y a pas mal de politiques qui ont été interpellés parce qu'il n'y a pas eu un mot de leur part et ça interpelle les électeurs. Monsieur Glucksmann n'a pas parlé, par exemple, dessus, Madame Aubry, Madame Ayé, et les internautes les interpellent en disant, et vous, qu'en pensez-vous? Clarifiez, il faut un débat plus apaisé autour de ce sujet. Donc on voit bien que c'est un sujet extrêmement fort, extrêmement clivant et qui a permis à Madame Maréchal, en tout cas, d'émerger de façon très très claire cette semaine, et ce qui fait d'ailleurs qu'elle n'a pas fait un tweet, voyant que ça prenait bien. Depuis le début de la semaine, on en est au 8e message en 3 jours.
Mais alors, François-Xavier Bellamy aussi a énormément communiqué sur ce sujet. C'est quand même difficile à concevoir qu'il ait pu tenter d'exagérer comme ça la portée de cette directive.
Alors, disons qu'il faut remettre tout ça dans le contexte. Il faut remettre aussi tout ça dans le contexte.
C'est un sujet fort pour lui, ça.
Voilà.
C'est sûr. Alors,
il faut se remettre dans le contexte des élections européennes où les Républicains, comme Reconquête, ont du mal à percer, ont du mal à se faire entendre. Et donc, par exemple, fidèle un peu à la stratégie d'Éric Zemmour pendant la présidentielle, Marion Maréchal pratique un peu l'outrance par ce genre de tweet, dire au lieu de dire on va avoir un débat apaisé sur cette question-là, etc., elle le fait d'une façon absolument outrancière. Et donc, elle bénéficie de ça, ça lui donne une caisse d'écho médiatique. Et derrière, François-Xavier Bellamy embraye. C'est vrai que il est connu pour des positionnements assez conservateurs sur ces questions sociétales. Et d'ailleurs, au sein de son camp, beaucoup lui ont recommandé de moins parler, de moins appuyer sur ces thèmes-là, comme il avait pu le faire en 2019, étant donné que ce sont quand même des sujets qui divisent les Français, et y compris l'électorat de droite. Donc on lui a pourtant recommandé de pas trop appuyer sur ce sujet, mais ça reste en effet un moyen de se faire entendre dans une campagne européenne où il est très difficile, au vu de la complexité des enjeux, de franchir le mur du son, si vous voulez.
Vous dites que ça n'est pas forcément payant. Lui a dû considérer ça, que dans l'électorat LR, c'est un sujet qui est attendu, oui. Ce genre de position, non ?
Oui, alors peut-être.
Peut-être, Adrien ou Alexandra.
Oui, alors je pense qu'il y a peu de Français qui font leur choix finalement à la fin là-dessus, quoi.
Alexandra Savina.
En fait, ce qui est très frappant dans cette histoire, c'est que la question de la GPA divise tous les camps politiques, quels qu'ils soient. Côté PS, par exemple, Raphaël Glucksmann et Boris Vallaud se sont déclarés pour une GPA éthique. Boris Vallaud, en disant il y a quelques mois qu'il savait que ça divisait son camp, et d'ailleurs, pas plus tard qu'en mars, il y a eu une tribune de la maire du 18e adjointe qui a dit qu'elle était contre la GPA et que la GPA éthique n'existait pas. C'est le cas aussi au RN. Vous aviez la position de l'eurodéputé que vous avez interviewé. Et en septembre, Julien Odoul, au micro de France Culture, disait qu'il ne savait pas qu'il y avait des débats au sein même du RN et qu'il fallait pour cela organiser un référendum pour que les Français puissent exprimer leur opinion. Donc on voit bien qu'en fait, ce n'est même plus une histoire de camp, c'est vraiment la croyance
plus
transversale. En fait.
Parce que même chez Renaissance, le président avait quand même toujours dit, le président de la République Emmanuel Macron a toujours dit qu'il était contre, a priori, la GPA pour des raisons éthiques.
Absolument,
et de dignité. Ouais. Et vous avez Monsieur Beaune, Monsieur Dussopt et Madame Thévenot qui sont montés au créneau. Donc on voit bien qu'effectivement, c'est pas tant un sujet de droite-gauche qu'un sujet compliqué au sein de chacun des camps. Quoi.
On continue cet échange après le fil info puisqu'il est 20h50. Stéphane Milhomme.
La portion de l'autoroute A13 aux portes de Paris ne rouvrira pas mercredi prochain, 1er mai. C'est une information France Bleu Paris. Il faut plus de temps aux techniciens pour colmater la fissure importante sur la chaussée de cet axe entre Vaucresson et Porte de Saint-Cloud. Une autre date sera annoncée d'ici quelques jours. Les locaux de Sciences Po Paris, toujours occupés par des étudiants et militants pro-palestiniens, mais à l'extérieur, la situation se débloque. Des militants quittent la rue Saint-Guillaume et les abordent l'établissement par petits groupes. Les forces de l'ordre avaient évacué précédemment les militants pro-israéliens pour éviter tout accrochage. La flamme olympique dort ce soir à l'ambassade de France à Athènes. Elle a été remise à Tony Estanguet, le patron des Jeux de Paris, lors d'une cérémonie. Elle embarquera demain à bord du Bel Aim. Le voilier français arrivera dans 12 jours à Marseille. Et le premier porteur de la flamme dans l'Hexagone, ce sera le nageur et multimédaillé Florent Manodou. Montpellier face à Nantes pour ouvrir la 31e journée de Ligue 1 de football. C'est à partir de 21h, en attendant peut-être le 12e sacre de champion de France demain pour le PSG après sa rencontre face au Havre.
France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
Adrien Brachet là pour Marianne, Alexandra Saviana pour l'Express, Véronique Ressoult pour Backbone Consulting. Alors parmi les nombreuses voix ou les voix un peu, les personnalités un peu visibles qui portent ce sujet GPA, il y a également Christophe Beaugrand qui était au cœur sans doute de la semaine, on va dire, sur les réseaux et notamment l'animateur journaliste, présentateur de Secret Story qui est allé sur France 5 au cœur de cette polémique, justement, défendre son cas à lui, cet enfant qu'il a et qu'il revendique, évidemment. On l'écoute.
Il n'est absolument pas illégal d'avoir recours à la GPA dans un pays où c'est encadré. Et plus que ça, sachez qu'il y a une circulaire de Christiane Taubira en 2013 qui facilite l'obtention des papiers pour les parents français qui ont eu recours à la GPA à l'étranger. Moi, mon enfant, il est inscrit sur le livret de famille, il a un acte de naissance français, donc j'interdis à quiconque, clairement, de dire que j'ai contourné la loi française, que je suis un délinquant, que mon enfant a été acheté à l'étranger, parce que c'est ça qu'il y a derrière. Vous n'imaginez pas la souffrance que ça représente pour des milliers, des dizaines de milliers de familles en France.
Véronique Rissoult, c'est là pour le coup, ça a été
un torrent et c'est violent. Il est devenu un symbole.
Mais comme toujours sur ce sujet ou là particulièrement.
Mais disons que ce sujet, il est particulièrement clivant et on voit les excès. Mais lui a fait l'objet d'attaques particulièrement fortes et qui fait d'ailleurs qu'il répond aussi par moments de façon un peu excessive. Il a fait quelque chose qui était intéressant comme démarche, qui est il a repris les insultes qu'on lui envoie et les publie pour que les gens se rendent compte de ce qu'il subit. Est-ce que ça a apaisé ? Pas forcément, ça a encore plus exacerbé le sujet, mais c'est une réalité, c'est que les messages qui lui sont envoyés sont d'une rare violence. Quoi.
Adrien Brachet ?
Oui, ce que je voulais dire, c'est que je voulais revenir sur ce qu'a dit Alexandra, ce qui est très intéressant, qui est sur les divisions au sein des camps, et c'est vrai qu'au lieu de rentrer dans les outrances vis-à-vis des uns et des autres, on pourrait avoir un débat apaisé, notamment à gauche, parce que ce qui est très intéressant à gauche, c'est que cette question de la GPA touche à deux fondamentaux de la gauche, si vous voulez, à deux contradictions qu'il y a au sein de la gauche française, c'est-à-dire une partie de la gauche française qui va s'élever contre toute marchandisation, donc dans ce cas la marchandisation des corps, on paye pour faire une GPA, et de l'autre côté une gauche plus tournée vers la question des droits individuels. Et si vous voulez, ce sont deux tendances au sein de la gauche qui ont tendance à s'entrechoquer, et donc on pourrait, pour avoir un débat vraiment intéressant, placer le débat d'un point de vue philosophique sur ce qu'on veut, en fait.
C'est aussi comme ça que surgit dans le débat, vous l'avez juste évoqué, Alexandra, la GPA éthique qui concerne, alors on va dire, ce qui se pratique aux États-Unis et au Canada versus des pays où, et notamment le cas de la maman, d'où la directive européenne d'ailleurs, où le consentement de la maman est loin d'être une évidence, en fait. Mais GPA éthique...
Oui, et en fait, le terme de GPA éthique qui est difficile à définir, en fait, ce qui est intéressant dans le vote à Strasbourg qu'il y a eu sur l'interdiction donc de l'exploitation des femmes participant à la GPA, pour ne pas faire de fake
donc,
news.
Donc en gros, des GPA lorsque la femme n'est pas consentante.
Voilà, c'est que certains militants LGBT y ont vu une manière de décrire en creux ce que serait une GPA éthique. Or, aujourd'hui en France, pour le moment, on ne sait pas, on n'a aucun contour et on ne sait pas non plus qui serait pour. La proposition n'a pas été clairement formulée, portée par le pouvoir, par l'exécutif notamment. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui permet à une certaine partie de la gauche d'être sur ses deux pieds. Parce que en disant oui, on est pour la progression des droits familiaux, des droits individuels, et en même temps, nous sommes contre la marchandisation du corps humain. Donc, ça permet d'éviter d'avoir cette tension-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça ne se traduit par rien de concret dans les textes de loi et dans les propositions.
La légalisation en France, elle va se poser tôt ou tard. Il y a tellement de parents qui, alors qu'ils soient, vont au bout du monde. Il y a une espèce d'injustice.
Alors c'est vrai qu'il y a ces cas-là, et en même temps, les politiques sont encore très prudents sur cette question-là, parce que, comme on l'a dit, c'est une question qui est source à la fois de beaucoup de clivages et de débats très tendus, et puis aussi parce qu'il y a des désaccords profonds au sein des familles politiques. Donc c'est dur pour l'instant, pour un candidat à la présidentielle, par exemple, de porter cette question-là et d'avoir l'unanimité de ses soutiens derrière.
Allez, on referme, on ne peut pas refermer ces informés, Véronique Rissoult, puisqu'on vous êtes notre œil sur les réseaux sociaux. Je voulais qu'on dise un mot de la flamme, parce que ça prend une ampleur assez conséquente, l'arrivée de cette flamme qui est en train de quitter la Grèce.
Qui quitte la Grèce, qui est une cérémonie d'ailleurs en Grèce qui a été saluée pour sa beauté solennelle et qui a été appréciée. On a aussi envie de belles histoires, parce qu'on voit bien qu'en ce moment, l'actualité n'est pas toujours très rose. Donc,
c'est
Français,
suivi, ça, c'était la flamme ou pas encore?
C'est plutôt suivi. Alors, pour vous donner une idée de volume, GPA, c'était 200 000 messages cette semaine. Là, on était à 11 000 messages. Donc, c'est plus calme. Mais ça démarre. Par contre, il y a quelques belles histoires qui démarrent très fortement. Pour vous donner une idée, il y a une très belle histoire qui, elle, a été beaucoup partagée. C'est Ludovic Francese, qui est un éboueur parisien qui va être porteur de la flamme. C'est un éboueur qui est très populaire sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, sur TikTok, il raconte tout le temps sa vie d'éboueur et les côtés sympathiques de son métier, qui est un amoureux de Paris et qui raconte combien la ville est belle. Eh bien, là, ça a été salué et ça fait partie des jolies histoires. Et donc, là, ça a largement dépassé ce volume. Et surtout, voilà, les gens ont retenu que ça peut être très joli, cette histoire, et que peut-être, ça va bien se passer, et peut-être, ça va être une jolie histoire.
Vous pouvez lire cette histoire, ce livre, parce qu'il avait écrit cette histoire avec une journaliste radio qui s'appelle Isabelle Millet.
Exactement.
Et qui avait, voilà, qui a permis de faire émerger cette.
Et là, il a un compte sur TikTok qui doit avoir 350 000 abonnés et qui est très suivi et raconte des très jolies histoires.
Alors, les unes, l'Express, on a vu, c'est la dette.
Dette, la France plombée.
Saviana. Et pour Marianne, Adrien Brachet.
C'est l'avenir radio des pétroliers. On a notamment une enquête sur les activités de Total.
Et l'ultime pouvoir, la face cachée des réseaux sociaux, c'est le livre de Véronique Ressoult aux éditions du Cerf. Demain, les informés, c'est à 20h avec Victor Maté. Et la semaine prochaine, c'est Agathe Lambret qui vous accompagnera à partir de 20h. Très bonne soirée.